Chapitre 3. Les tribulations d'un inventeur. Eh bien, vous m'avouerez, fit le binocle d'écaille en replaçant la singulière lettre dans son portefeuille, que l'on est fort excusable, après la lecture d'un pareil document, de le croire émaner d'un cerveau malade. Que voulez-vous? La boîte signée Théodore Fulbert, la tranquille simplicité avec laquelle ce savant, qui a toujours passé pour un peu excentrique, nous annonce qu'il tient à notre disposition la destruction de Berlin, aurait incliné les moins prévenus à mettre de fâcheux pronostics sur le prochain avenir d'une aussi belle intelligence. C'est alors que l'on entendit pour la première fois la voix de Mr. Cromer. Ce personnage parlait français avec un accent d'outre-Manche très accentué. Il s'exprimait difficilement, mais avec force. Et quand il avait trouvé le terme dont il avait besoin, il le lançait contre son interlocuteur avec une brutalité qui semblait destiné à anéantir toute velléité de discussion ou de controverse. Pardon, vos excellences, il faut savoir que Théodore Fulbert n'a pas reçu même une réponse de rien du tout. Indeed, cela n'être pas assez, je dis, I say. Le pauvre vieux savant a été traité chez vous comme un petit jeune homme à son première expérience de la physique. Je dis, les inventeurs chez vous, ils sont très forts, mais toujours regardés comme très fous. Yes, I say. Il existe certainement, j'avoue, des établissements de recherche tels Collège de la France et la Muséum, mais en dehors de cela officiel, rien ne dit tout, no. Et en dehors de Pasteur Institute pour biologique travail, rien ne dit tout pour autre fonction. Oh, I say. Mais en Allemagne existe un institute pour recherche générale, très bien doté de gros argent et très intéressé par l'empereur. Yes. En Amérique, en Angleterre, de très généreux milliardaires, ils ont créé des instituts pour recherche, et tous vos inventeurs s'en allaient dans la Angleterre ou Amérique, I say. Carrel, français, à l'Institut Rockefeller américain, et aussi ils vont, avant la guerre, enrichir l'Allemagne, because les brevets sont garantis par le gouvernement allemand. Yes. Sous ce débordement de phrases roides, tout le monde avait d'abord baissé la tête. Mais le président avait fait un geste d'impatience. Le binocle d'écaille osa interrompre le terrible Mr. Cromer. Je crois qu'il est un peu tard pour nous attarder à des critiques. Peut-être très juste. Yes, je critique. I beg pardon. C'est pour critique que je me suis venu. En France, à Paris, I say. Les inventeurs sont comme petits enfants abandonnés sur le chemin de la science. Théodore Fulbert m'a écrit cela. Et alors, moi, j'ai lu sa lettre à mon institut. Moi, je répondu. Et alors, il est venu. Et moi, j'ai vu, en écoutant lui, combien cela qu'il disait était serious et terrible. Le président interrompit encore l'anglais. Procédons par ordre. Avant d'aller trouver M. Cromer, Fulbert ne s'était-il pas adressé à M. le directeur de l'époque? C'est exact, répliqua immédiatement celui-ci, en ce qui me concerne. J'ai fait comme devait faire Mr. Cromer. J'ai prié Fulbert de venir chez moi et je l'ai questionné. Et j'ai trouvé que tout ce qu'il me disait était moins ridicule que terrible, comme dit M. Cromer. Si bien que je l'ai invité à dîner le soir même avec le général. Le général D est à Salonique, fit entendre le binocle d'écaille. J'ai l'occasion de le voir quelques jours avant son départ, et il ne m'a parlé de rien qui puisse se rapporter à Fulbert. Il est probable qu'il l'avait déjà oublié, émit le directeur de l'époque. Fulbert n'avait donc pas produit une grande sensation sur lui, demanda le bureau de tabac. Tous les détails de ce dîner sont parfaitement restés dans ma mémoire, répondit le directeur de l'époque. Vous seriez tout à fait aimable de nous les faire connaître, monsieur, exprima le président. Eh bien, ce soir-là, dès le potage, Fulbert, sans nous dévoiler son secret, naturellement, nous entretint de la puissance formidable de son engin. Et je me rappelle qu'il ne parlait pas depuis plus de 5 minutes que déjà, le général D s'écriait. « Mais c'est une histoire de Jules Verne que vous nous racontez là, mon cher savant. Je l'ai lu quand j'étais au collège. Ça s'appelle Les 500 millions de la Begum. Attendez, voici le sujet dont je me souviens très bien. Un Fritz de ce temps-là avait fabriqué un canon prodigieux qui envoyait sur une cité construite en Amérique par des Français un projectile naturellement colossal et capable de tout anéantir en quelques minutes. Le général D, pour dire cela, avait pris un ton si parfaitement ironique que je crus devoir intervenir. Mon cher général, interrompis-je, nous vivons à une époque où toutes les imaginations de Jules Verne, sur la terre, dans les airs et sous les eaux, se réalisent si bien et si complètement qu'il ne faudrait point s'étonner que celle-ci finît par entrer, comme les autres, dans le domaine de la réalité. Pendant que je parlais ainsi, Fulbert, qui était assis en face de nous fixait, le général et moi, avec une expression de mépris incommensurable. Si imaginatif qu'ait été Jules Verne, s'exclama-t-il, il n'eût jamais osé rêver ce que la science actuelle est susceptible de matérialiser. Dans mon affaire à moi, il ne s'agit pas d'un obus, mais d'une torpille, et d'une torpille qu'aucun canon au monde ne pourrait contenir et qu'aucune charge d'explosif connue ne pourrait envoyer bien loin. Ma torpille est plus grande que le Titanic. Entendez-vous? Je dis plus grande que le Titanic. Elle a 300 mètres de long. Elle est douée d'une vitesse de 400 km à l'heure. Rien ne saurait l'arrêter. Elle ruine tout, brûle tout, anéantit tout, dans un cercle de plusieurs lieues. On ne peut rien contre elle. Une fois lancée, rien au monde n'est capable de l'empêcher d'atteindre exactement son but, ni d'éclater à l'heure fixée et à l'endroit fixé. Elle s'appelle Titania. Je ne sais si vous avez vu quelquefois Théodore Fulbert, continua le directeur de l'époque. Il a des yeux d'une clarté et d'une pureté enfantine, une figure de petit ange inspirée dans un cadre farouche de mèches blanches qui se tordent comme des flammes autour de son front phénoménal. Et le tout constitue un mélange des plus curieux qui étonne et inquiète. Ce soir-là, il était très, très inquiétant. Quand il se leva de table, après nous avoir lancé sa formidable tirade, il avait littéralement l'air d'un fou. J'ai pu croire qu'il allait tomber devant nous d'une attaque d'apoplexie. C'est tout juste s'il n'oublia pas de me serrer la main et s'il se rendit compte que c'était dans mon auto que je le faisais reconduire chez lui. Quand il fut parti, le général D me dit: Ce n'est pas le premier que la guerre a rendu fou. N'importe. Nous avons passé une bonne soirée. Il est amusant avec sa torpille. Puis nous parlâmes d'autre chose. Le lendemain, je recevais un mot de Fulbert me disant qu'il était décidé à aller proposer sa machine infernale aux Anglais et me demandant si je ne pouvais pas lui faciliter le voyage et lui faire parvenir les permis nécessaires. Je m'en occupai aussitôt, simplement pour ne pas le chagriner. Et c'est ainsi qu'il passa le 3. Il avait déjà écrit à Mr. Cromer, à son institut Scarborough, et j'appris bientôt que Mr. Cromer, lui, avait pris au sérieux ce qui nous avait simplement amusés. Le général D et moi. Ayant dit, le directeur de l'époque se tut. Et dans le cabinet du chef de la sûreté, tout le monde maintenant regardait Mr. Cromer, et certes, il y eut une certaine émotion dans le groupe des hauts personnages quand on entendit l'anglais prononcer ces mots. Perfectly well. Théodore Fulbert n'est point fou du tout. Je dis, elle pouvait détruire Berlin. Yes.